l'œcuménisme devient un défi incontournable. Et c'est pas toujours simple, parce qu'évidemment, quand on est largement minoritaire, au point de vue au moins numérique, on a tendance parfois à s'enfermer ultérieurement, à construire comme une coque, hein, pour protéger son propre histoire, ses particularités. Et on a du mal parfois à faire la seule chose qui est possible pour les chrétiens, c'est-à-dire regarder au futur, parce que le Christ est venu pour nous ouvrir à un futur et pas pour nous demander de regarder sans cesse, même nostalgiquement, au passé. En général, c'est un petit peu la situation qu'on connaît au quotidien.
Alors, qui sont les chrétiens catholiques de Turquie ?
Les catholiques, latins notamment, ont toujours été dans ce pays des étrangers. Au fond, on est peut-être plus à l'aise à accueillir le concept biblique profond d'une étrangeté native qui caractérise un petit peu notre présence aussi des chrétiens dans ce monde tout d'abord, et là où on est appelé à témoigner de façon très simple dans ce monde, mais pas de ce monde, de notre foi. Voilà, ça c'est une caractéristique principale. Mais aussi savoir, par exemple, nous on s'appelle Église évidemment latine, catholique, mais nous n'avons plus une langue liturgique unique. C'est très bien qu'après le Concile Vatican II, on célèbre en plusieurs langues, y compris le turc, ce qui, pendant des décennies, a beaucoup choqué, a créé aussi peut-être des crispations, parce que, ici, dans la communauté locale historique, parce qu'on considérait que le turc était tout simplement la langue des musulmans. Donc là, le défi aujourd'hui pour cette Église, c'est de témoigner davantage de l'universalité, non, d'une appartenance qui change aussi sans cesse. Hein, parce que quand je disais il faut regarder au futur, il faut savoir aussi que cette Église, c'est pas seulement une Église historique. C'est une Église qui change chaque année, je voudrais dire. Tout d'abord à cause des phénomènes migratoires, qui ne sont pas seulement donc dans le sens d'une hémorragie de fidèles chrétiens à la recherche de meilleures conditions de vie ailleurs, mais qui est aussi dans le sens contraire, non, une migration de gens qui arrivent dans ce pays, qui demandent asile, qui espèrent de construire le futur dans ce pays et qui sont en partie non négligeables actuellement des chrétiens et parfois même des chrétiens catholiques. Donc c'est une humanité souvent meurtrie aussi, souffrante, qui a enduré des drames inimaginables, qui demande à être protégé, tout d'abord au nom des droits de l'homme, et non pas au nom de revendications historiques propres à une minorité religieuse. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que le premier accueil dans les communautés historiques n'est pas toujours forcément facile. Donc c'est un véritable défi interne aussi.
Alors pour les chrétiens de Turquie, le premier grand défi, vous l'avez dit, c'était l'écuménisme. Et l'autre grand défi, on peut dire, c'est le dialogue islamo-chrétien.
Alors, il faut, je pense, le plus possible sortir d'un dialogue de système. Parfois, je dis, un petit peu peut-être en mode de provocation, que je ne crois pas tellement qu'il existe un dialogue islamo-chrétien possible. Et alors, les gens me regardent un petit peu bizarrement, et alors je continue en disant, mais oui, parce que je crois profondément que ce n'est pas tellement des systèmes, mais c'est des croyants concrets qui peuvent se rencontrer. Alors, moi, là, je suis témoin au quotidien d'une rencontre possible d'êtres humains croyants qui partage ce qui est le plus important dans leur vie et qui espère de construire, malgré la peur, malgré parfois l'ignorance de l'autre aussi, de construire quelque chose ensemble pour un meilleur futur commun. Et même l'œcuménisme parfois doit dépasser des rapports qui sont très formels, qui sont justement toujours la représentance à cette célébration, échange de vœux, etc. Par exemple, je donne des exemples concrets. Depuis 8 ans, on essaye ici à Istanbul, une fois par mois, pas plus, de rassembler des croyants de différentes églises pour prier une fois par mois ensemble pour la paix et la réconciliation. On pourrait penser que c'est quelque chose de tellement urgent et ressenti comme une nécessité. Et pourtant, même là, il faut dépasser des peurs, des difficultés, le besoin parfois de comprendre bien, d'identifier ce qu'on est en train de faire pour éviter d'être quelque part, comment dire, avalé dans une appartenance qui ne serait pas la nôtre, etc. Et ça prend du temps. Mais malgré tout, en 8 ans, je pense qu'il y a plus de 8000, 9000 personnes qui sont passées au moins une fois, deux fois, pour prier ensemble, dans plusieurs langues, en écoutant la parole, en chantant, etc. C'est un petit signe, mais c'est pas gagné. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut relancer, à chaque fois, il faut inviter personnellement les personnes, leur faire courage, tout en leur disant que le but, c'est après de retourner là où on vit d'habitude, dans les communautés différentes, respectives, d'appartenance, pour porter quelque chose de ce souffle, de ce ce ressourcement spirituel aussi qu'on reçoit ici. Moi, je crois que vivre ici depuis 10 ans, ça m'a fait découvrir qu'un rapport est possible. Mais comme toute amitié, comme toute communion, tout contact, ça demande une patience énorme, ça demande du temps, mais après, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est ça, à mon sens, le dialogue, sans être naïf. Et c'est sur cette base qu'on construit aussi des projets communs, de sociétés plus importants pour le futur. S'il n'y a pas cette base, la peur, le soupçon auront toujours un rôle déterminant pour empêcher des évolutions importantes.
Le pape s'est rendu au Liban pour remettre l'exhortation apostolique à tous les chrétiens du Moyen-Orient. Alors selon vous, quels sont les points essentiels de cette exhortation sur lesquels il serait bon d'insister au vu du contexte actuel ?
Focalisé autour de deux termes essentiels, communion et témoignage. Pendant trop de siècles, il y a eu un manque important de communion dans la diversité qui est richesse des traditions. Et donc, ce qui devait être un témoignage est devenu un contre-témoignage. La catholicité de l'Église exprime son universalité véritable contre tout essai de la réduire à une fédération d'Églises qui s'ignorent, qui appartient à des rites différents, à des histoires différentes, qui ont des langues différentes. Ça, c'est la première chose. Et je pense que là, c'est vraiment un appel essentiel. Parce que le drame actuel, je l'ai déjà dit, je le répète parfois au cœur des églises d'Orient, c'est ignorer l'autre, au fond, qui croit fondamentalement dans le même Christ sauveur. Ça, c'est un véritable drame. J'espère aussi que le synode ne devient pas un souvenir historique d'un moment important, que la synodalité, c'est-à-dire la rencontre permanente, l'échange sans peur, devienne une méthode de la vie de ces églises. C'est un appel à l'écoute. On a énormément besoin de ça, parce que parfois on se sent un petit peu éloigné par rapport à certains débats. C'est comme si, voilà, le synode était un luxe, un débat d'une classe restreinte de personnes, et après, au quotidien, il faut composer avec toute autre chose. Non, le synode, ça doit devenir vraiment engagement au quotidien. C'est pas seulement, voilà, ajouter des documents ultérieurs qui alourdissent nos archives et nos bibliothèques. Voilà, c'est un espoir qu'on a.